Le texte qu'on va lire aujourd'hui se trouve dans le deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois. Et on va arriver à ce fameux texte pivot que je vous avais annoncé dans les semaines passées. Ce texte où le cycle d'Élie va maintenant se terminer et où le cycle d'Élisée va en fait s'entamer en un seul et même mouvement qui n'est ni plus ni moins que celui de l'enlèvement d'Élie. Deux rois, chapitre 2. Versets 1 à 18. Voici ce qui arriva quand Yahweh fit monter Élie au ciel dans la tempête. Élie et Élisée quittaient Gilgal. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car Yahweh m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « Par la vie de Yahweh et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu qu'aujourd'hui Yahweh va enlever ton maître dans les airs au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais moi aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Élisée reste ici, je t'en prie, car Yahweh m'envoie à Jéricho. » Élisée répondit « Par la vie de Yahweh et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « « Sais-tu qu'aujourd'hui Yahweh va enlever ton maître dans les airs au-dessus de ta tête ?» Élisée répondit, « Je le sais moi aussi, taisez-vous. » Élie lui dit enfin, « Reste ici, je t'en prie, car Yahweh m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « Par la vie de Yahweh et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Et ils s'en allèrent tous les deux. 50 d'entre les fils des prophètes allèrent se placer en face du Jourdain, à distance d'Élie et d'Élisée qui s'arrêtèrent tous deux près du fleuve. Alors Élie enleva son manteau, le roula et il frappa les eaux qui se séparèrent et ils passèrent tous les deux à pied sec. Comme ils passaient, Élie dit à Élisée, « Demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que vienne sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » Élie lui dit, « Tu demandes là une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi, alors il en sera ainsi pour toi, sinon cela ne sera pas. » Tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans la tempête. Quant à Élisée, il voyait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Puis il cessa de le voir. Alors il saisit ses vêtements, il les déchira en deux. Il ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Il revint vers le Jourdain et il s'arrêta sur la rive. Et alors il enleva le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Il frappa les eaux en disant « Où est Yahweh, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux. Elles se séparèrent et Élisée passa. Les fils des prophètes, ceux de Jéricho, qui l'avaient vu d'en face, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils vinrent à sa rencontre. Ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre et ils lui dirent « Avec tes serviteurs, il y a 50 hommes, des hommes vaillants, des guerriers. Permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être que l'esprit de Yahweh l'a emporté et jeté sur quelque montagne, dans quelque vallée. » Il dit, « N'envoyez personne. » Mais ils l'importunèrent tellement qu'ils finirent par dire, « Envoyez-les donc. » Ils envoyèrent donc les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours sans le trouver. Ils revinrent vers Élisée, qui était resté à Jéricho, et qu'il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas ? » Prions. Encore un texte, Seigneur, qui est particulièrement surprenant pour des lecteurs du XXIe siècle comme nous. On voit les eaux s'ouvrir, on voit des manteaux qui tombent, on voit des gens qui frappent la mer ou le fleuve avec un manteau, on voit des fils des prophètes, on voit des choses surnaturelles comme cet enlèvement du prophète qui monte au ciel. Toutes ces choses, Seigneur, nous savons qu'elles sont dans ta parole et nous croyons que tu les as données pour notre instruction. Et nous voulons prier pour que ce texte, Seigneur, porte du fruit dans nos vies, du fruit dans nos âmes, et qu'il puisse nous parler, Seigneur, que nous puissions, par son exposition, être instruits, nourris, marcher avec toi et te suivre. Te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous le savez, je suis un fan de cinéma et j'ai déjà mentionné ici le fameux film d'Avengers Endgame. C'est pas que je voudrais le spoiler si vous ne l'avez pas encore vu. Mais tout à la fin, vous avez un hologramme de Iron Man, qui est Stark, pour ceux qui ne connaissent pas le film. Et Stark dit « La fin fait partie du voyage. The end is part of the journey, en anglais. Il dit ça à la fin du film d'Avengers, qui marque comme la fin d'un cycle narratif dans toute cette série de films. Et à vrai dire, j'ai trouvé cette phrase qu'elle résumait beaucoup d'œuvres littéraires et cinématographiques de ce que j'ai pu voir de ces dernières années. Parce que toutes les belles histoires ont une fin, et tous les personnages sur cette terre, aussi impressionnants soient-ils, ne dérogent pas à cette règle. Élie lui-même, le grand prophète, ce prophète impressionnant, ne déroge pas du tout à cette règle. Ce texte nous parle donc de la fin du ministère du prophète Élie, mais contrairement au commun des mortels, sa fin ne se termine pas par sa mort, mais par son enlèvement. Et regardons ensemble ce que ce texte peut nous apprendre sur l'enlèvement d'Élie et sur sa signification pour nous. Et la première chose qui saute aux yeux tout de suite quand vous regardez ce texte, c'est cette série de voyages d'Élie et d'Élisée le long de la frontière sud d'Israël. Élie et Élisée voyagent le long de la frontière sud. Ce sont les versets 2 à 6. Et nous voyons tout d'abord Élie et Élisée qui sont à Gilgal, et de Gilgal, ils descendent à Bethel. Le récit s'ouvre par un dialogue, en fait, dans lequel Élie exprime à Élisée son intention de se rendre à Bethel sans lui, mais Élisée refuse de l'écouter, et il lui dit « Je vais rester avec toi ». Et ce qui est frappant, c'est qu'il utilise une formule de serment qui est très semblable à celle qu'Élisée avait utilisée dans son ministère contre Akab. Vous vous souvenez, Élisée disait souvent « Yahweh est vivant, Yahweh devant lequel je me tiens est vivant. » Et vous saviez que c'était une expression qui était caractéristique du prophète Élie. Eh bien ici, on a une expression similaire, une formule de serment. On a Élisée qui dit « Par la vie de Yahweh et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » C'est très ferme. C'est une forme de désobéissance de la part d'Élisée envers son maître. Alors, je vous le disais, ils étaient à Gilgal, et les spécialistes divergent quant au lieu exact. On ne sait pas vraiment d'où ils partaient, mais il semble que c'était un peu plus au nord que Bethel. Bethel, si vous regardez vos cartes dans vos bibles, vous allez voir que c'est sur la frontière entre Israël, le royaume du nord, Juda, le royaume du sud, en plein centre de la frontière, vous aviez cette ville. C'était une ville frontière entre les royaumes du nord et du sud, et c'était une ville qui avait une bien mauvaise réputation, notamment pour les disciples de Yahweh. Bethel, c'était une ville où Jéroboam avait installé le culte des veaux d'or, un culte qui servait en quelque sorte à détourner les enfants d'Israël de suivre Yahweh, de l'accompagner, de lui rendre un culte. Et c'était même l'un des principaux centres d'idolâtrie en Israël et l'une des villes où le vice s'exerçait au grand jour, l'une des villes de débauche telles qu'on en connaît aujourd'hui. Et si je devais faire un parallèle entre Bethel, cette ville du 1er siècle, et des villes d'aujourd'hui auxquelles je pourrais le comparer, ce serait sans doute Las Vegas qui correspondrait le mieux à la ville de Bethel. On dit « ce qui rentre à Vegas reste à Vegas ». Vous connaissez l'expression sûrement. C'était un peu ça, « ce qui rentre à Bethel reste à Bethel ». C'était vraiment la ville des délices pécheurs, des vices, même contre nature, et de l'idolâtrie qui s'opposait à Dieu. Mais ce qui est frappant, c'est que dans une telle ville, il y avait toutefois une de ces communautés de prophètes. Vous savez, ces fils des prophètes qu'on a rencontrés à plusieurs reprises dans le cycle d'Élie, eh bien, il y en avait une à Bethel, et il est tout à fait probable d'ailleurs que le voyage d'Élie, son dernier voyage, eh bien, consistait à aller visiter ces communautés de prophètes. Et les prophètes qui sont à Bethel, qui sont des prophètes, donc qui reçoivent des oracles de Dieu, ils ont une révélation de ce qui allait se passer. Et ils viennent voir Élisée, ils lui disent « Est-ce que tu sais, Élisée, que Yahweh, là, il va enlever ton maître de dessus toi, il va l'enlever et tu vas rester seul ?» Élisée leur répond « Je le sais aussi, taisez-vous. » On voit, comme on dit en français, je ne sais pas si vous dites ça dans les expressions québécoises, que l'enlèvement d'Élie, c'était un secret de Polichinelle, autrement dit que ce n'était pas un secret du tout. Tous les prophètes le savaient, et on comprend pourquoi Élisée ne voulait pas quitter son maître. Il voulait être avec lui, et il voulait être avec lui jusqu'au bout. Donc, de Gilgal, ils descendent à Bethel, et de Bethel, le même phénomène se reproduit. Cette fois, Élie demande à Élisée de rester à Bethel, et il lui dit « Moi, je vais aller à Jéricho ». Mais là encore, la même formule de serment, exactement identique, il lui dit « Par la vie de Yahweh et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Et arrivé à Jéricho, même combat, les fils des prophètes mettent en garde Élie de la même manière que ceux de Bethel, et Élisée leur fait la même réponse, « Je le sais, taisez-vous ». Là encore, j'aimerais souligner que Jéricho n'était pas une ville qui avait une très bonne réputation. C'était la ville qui avait tenté de résister lors de la conquête par Josué, qui avait été complètement détruite, et Josué avait prononcé une malédiction contre elle. Et on sait dans 1 Roi 16 qu'un dénommé Yael de Bethel, bravant la malédiction divine, va vouloir reconstruire la ville, et le texte nous dit que cette reconstruction va se faire au détriment de ses proches, puisqu'il va avoir 2 morts dans sa famille proche à cause de la reconstruction de Jéricho. Et donc de Jéricho, là encore, la même chose se produit. Élie dit à Élisée, écoute, reste ici à Jéricho, moi, l'Éternel m'envoie au Jourdain. Donc si vous regardez encore la carte, ils étaient à Bethel, à peu près au centre, ils sont à la frontière, ils vont légèrement vers l'est à Jéricho, et le Jourdain, c'est la frontière avec Moab, ça se situe complètement à l'est. Donc ils traversent le pays d'ouest en est. Et ici encore, le même processus se répète. Élisée refuse de laisser son maître et après avoir prononcé exactement la même formule d'imprécation, il lui dit « J'irai avec toi ». Et les voici qui se dirigent donc vers l'est, vers le Jourdain. Or le Jourdain, c'était un fleuve le plus important en Israël et c'était une véritable frontière naturelle entre Israël et les territoires d'Amnon et de Moab. De l'autre côté du Jourdain, à l'emplacement où se situait et c'est très important que je le souligne, l'emplacement où se situaient Élie et Élisée, c'était donc Moab, et c'était le mont Pisgah. Et si vous êtes un lecteur assidu de la Bible, le mont Pisgah, ça va vous évoquer tout de suite quelque chose, c'est l'endroit où Moïse était mort. Et cette fois-ci, il y a une délégation de 50 fils des prophètes qui les suit à distance, ils devaient sans doute sentir que quelque chose allait se produire, ils les suivent, et pendant qu'ils sont à distance, ils s'approchent des rives du Jourdain, mais ils restent à bonne distance, c'est-à-dire qu'ils voient ce qui se passe, mais ils ne s'approchent pas plus. Et donc, le trajet d'Élie et d'Élisée prend fin, ici, ils sont face au Jourdain, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'Élie et Élisée vont traverser le Jourdain. Élie et Élisée vont traverser le Jourdain, versets 8 à 10. Et regardez le verset 8, action singulière, Élisée prend son manteau, il le roule, il frappe le Jourdain et le Jourdain s'écarte. Alors, on commence à en avoir l'habitude, des miracles aussi impressionnants que ceux-là, qui sont racontés en très peu de mots, d'une manière laconique. Arrivé sur les rives du Jourdain, sous les yeux d'Élisée, les 50 fils des prophètes qui se tiennent au loin, vous avez Élie qui enlève son manteau, qui frappe le Jourdain et le miracle se produit, les eaux se divise en deux et Élie et Élisée traversent à pied sec. Alors là encore, pour le lecteur assidu de la Bible, ça rappelle tout de suite quelque chose. Et imaginez-vous, pour les premiers lecteurs de ce texte, immédiatement ils faisaient le parallèle avec l'ouverture de la mer Rouge alors que les Israélites fuyaient devant Pharaon. Vous vous souvenez sûrement de cet épisode. C'est dans le livre de l'Exode, c'est Exode 14. Mais figurez-vous que ce n'est pas tout. Et écoutez bien cela. Dans l'ensemble du cycle d'Élie, on a noté à plusieurs reprises que Élie, il est comparé à Moïse. Vous vous souvenez, on l'a souligné à plusieurs reprises dans le cycle d'Élie, voire qu'il est présenté même comme un nouveau Moïse. Or ici, dans ce texte ici, au moment de l'enlèvement d'Élie, cette mise en parallèle, eh bien, elle est plus évidente que jamais, et il y a comme une série de clins d'œil littéraires qui vont être immanquables pour les premiers lecteurs. Déjà, je vous ai parlé, et j'ai insisté là-dessus, des trajets que Élie et Élisée ont fait. Ils ont fait Gilgal, Gilgal-Bethel, Bethel-Jéricho, Jéricho, le Jourdain. Eh bien, si vous regardez Josué 1 à 8, eh bien, le peuple d'Israël, lorsqu'il est rentré par l'est, dans le territoire de Canaan, eh bien, il a suivi exactement le même trajet inverse. Il est passé par le Jourdain, il est rentré dans Jéricho, il est parti à Bethel et apparemment il serait remonté à Gilgal. Ça, c'est le premier point vraiment troublant que les Israélites, qui avaient un véritable culte centré autour de la conquête du pays, pouvaient difficilement manquer. Deuxième chose, et c'est là que c'est vraiment intéressant, l'endroit même où Élie et Élisée traversent à sec le Jourdain, eh bien, il se situe dans la même zone que là où Josué et le peuple traversent à sec. Parce qu'il n'y a pas un seul miracle dans l'Exode et dans Josué où les eaux s'écartent. Il y a le miracle de la mer des joncs, de la mer rouge, Yam Souf en hébreu, où la mer s'écarte devant Moïse. Mais ensuite, Josué avec le peuple va voir le Jourdain s'écarter. Vous vous souvenez de ce passage-là ? Et tout le peuple va traverser le Jourdain à sec et vont même établir au centre du Jourdain un autel avec des pierres. Or, si vous regardez Josué 3:16, la traversée du Jourdain s'est faite face à Jéricho. Autrement dit, alors qu'ils suivent le chemin inverse du peuple d'Israël quand ils sont rentrés dans le pays, probablement ils traversent le Jourdain exactement au même endroit. Est-ce que ce n'est pas troublant comme coïncidence ? Mais ce n'est pas tout, écoutez encore. Alors que la fin du ministère d'Élie approche, alors qu'il va être enlevé au ciel, alors qu'il fait exactement le chemin inverse que celui du peuple lorsqu'il est entré dans le pays sous Josué, il le fait là où Josué avait fait ça au moment de la mort de Moïse. L'enlèvement d'Élie, va se produire à peu près en parallèle de la mort de Moïse. Et regardez bien, l'endroit même où Élie s'apprête à être enlevé se situe dans la zone où Moïse a été secrètement enterré par Dieu après sa mort, juste au pied du mont Pisgah, vis-à-vis du Jourdain. Vous ne pouvez pas faire plus clair en termes de parallèle. Vous avez la fin d'Élie qui va se situer exactement au même endroit que la fin de Moïse, avec un trajet inverse et quasi similaire à celui que les enfants d'Israël avaient suivi. Les premiers lecteurs, qui étaient familiers de la géographie d'Israël et des régions environnantes, ils pouvaient difficilement passer à côté de tels parallèles. Et ainsi, plus que jamais, Élie est présenté comme un nouveau Moïse, au point de vivre la fin de son ministère exactement au même endroit que lui. Alors, il traverse le Jourdain est à sec, c'est déjà suffisamment surprenant, il se retrouve au milieu du Jourdain, et si ce que je dis est vrai, ils étaient peut-être exactement à l'endroit où il y avait des pierres, 12 pierres qui avaient été montées par Josué au milieu du Jourdain, et en plein milieu du Jourdain, vous avez Élie qui s'adresse à Élisée et qui lui dit « Demande ce que je dois faire avant d'être enlevé loin de toi ». Le lieu de la demande, je le dis, il est extrêmement important, mais pourtant le texte ne s'arrête même pas là-dessus, il présuppose qu'on a noté les choses. Élisée répond « Que vienne sur moi, je te prie, une double part de ton esprit ». Voilà typiquement le genre d'expression qu'on a du mal à comprendre si on ne la remet pas en contexte. Mais si vous relisez la loi sur les héritages de Deutéronome 21, vous vous rendrez compte que l'aîné de la famille, celui qui était censé assurer la continuité de la famille, celui qui reprenait la charge du père, qui reprenait le rôle de chef de famille, qui reprenait ses attributions, eh bien, cet aîné, il avait systématiquement une double part. Ce qu'Élisée demande là, ce n'est pas d'être deux fois plus fort qu'Élie ou d'avoir deux fois plus de pouvoir qu'Élie. Il lui dit, donne-moi la capacité de reprendre ta charge. Donne-moi l'héritage prophétique qui me revient. Donne-moi le rôle que tu as eu. Donne-moi d'être prophète après toi, comme cela t'a été annoncé lors de ton épisode au mont Horeb. Vous vous souvenez quand Élie se retrouve au mont Horeb, qu'il entend Dieu dans le murmure doux et léger, Dieu le commissionne à nouveau et lui dit « Tu oindras Élisée comme prophète après toi ». C'est exactement ce qu'on voit ici. Le récit de succession entre Élie et Élisée n'est ni plus ni moins qu'un parallèle avec le récit de succession de Josué à Moïse. C'est un bijou littéraire. Si vous vouliez écrire ça dans un récit, vous ne feriez pas mieux en termes de concision, de précision, de mise en parallèle littéraire, c'est immanquable. Sauf que ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre Dieu, le Créateur de toute la terre, le Dieu de l'histoire, écrit l'histoire comme on écrit un livre et laisse en toute invisibilité, mais avec beaucoup de sagesse, quelques petits indices pour nous montrer que l'histoire est dans sa main et qu'il l'ajoute et qu'il la construit et qu'il la fait dérouler devant nous en respectant même des conventions littéraires. Est-ce que vous vous rendez compte du Dieu que nous servons et qui se manifeste à nous ? Élie répond à Élisée, tu demandes une chose bien difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé l'un de toi, alors il en sera ainsi pour toi, sinon cela ne sera pas. Je crois que nous comprenons ici un peu mieux l'insistance d'Élisée. Il faut qu'il ait suivi son maître jusqu'au bout. Il faut qu'il l'ait vu se faire enlever pour pouvoir hériter de sa charge, selon la prophétie. Et c'est une chose difficile que de suivre Élie, le nouveau Moïse. Est-ce que vous voulez vivre comme Élie ? Qui aujourd'hui serait prêt à abandonner ses vêtements ? Qui serait prêt à abandonner sa paire de bœufs ? Qui serait prêt à renoncer à tout pour mener une vie avec des sauterelles et je ne sais quoi d'autre ? Je n'ose même pas imaginer comment il faisait pour aller aux toilettes, Élie. Je n'ose même pas l'imaginer comment ça devait être, ce style de vie que le prophète avait. Il fallait avoir envie. Non seulement il fallait avoir envie de commencer, mais il fallait avoir envie de persévérer pour suivre le prophète. Il faut qu'il ait suivi son maître jusqu'au bout. Il faut qu'il le suive pour avoir sa charge. Et ici, chers amis, on a un formidable exemple de ce qu'est le discipulat chrétien. Si vous êtes disciple de Christ, mes amis, ça veut dire suivre jusqu'au bout. Oui, nous croyons que le salut est acquis une fois pour toutes. Oui, nous croyons que ceux qui sont sauvés persévéreront. Oui, nous croyons cela, mais ceux qui persévéreront, ils persévéreront dans la communion, la foi avec Christ, dans la communion avec l'Église, jusqu'au bout. Ils le feront par la grâce de Dieu, mais ils le feront au milieu des souffrances et des difficultés, au milieu des chutes et des luttes, au milieu des déceptions, au milieu de la mauvaise nourriture et des mauvais vêtements, comme au milieu de l'abondance. Une bonne leçon pour nous, chers amis, que cette persévérance d'Élie pour accéder à la prophétie promise, vous êtes bénis de toutes les promesses dans les lieux célestes. Tiendrez-vous et avez-vous la volonté de tenir jusqu'au bout pour en hériter. Troisième chose que nous apercevons dans ce texte, c'est qu'Élie est enlevé devant Élisée. Là encore, je vous le disais, beaucoup de choses se passent de manière très inattendue dans ce texte, en très peu de mots, décrit de manière très laconique, et là encore, on a la même chose. Regardez verset 11, il est juste enlevé, c'est deux mots en hébreu pour nous décrire son enlèvement, c'est soudain, ils sont encore en train de parler, et d'un seul coup, Élie est enlevé au ciel, dans un tourbillon, dans une tempête, sans aucun signe avant-coureur. Et cette soudaineté, chers amis, ça rappelle les interventions divines au travers d'Élie. Vous vous souvenez, chaque fois que Élie intervenait, c'était soudainement sur la parole de l'Éternel, il obéissait promptement, et c'est ce qu'on retrouve exactement ici. Alors, il y a toute une symbolique derrière cet enlèvement qui est assez surprenante. On la retrouve qu'ici, dans l'Ancien Testament. Vous avez un char de feu et des chevaux de feu qui séparent Élie et Élisée l'un de l'autre. Élie monte au ciel dans la tempête, sûrement une sorte de tornade, une vision qui devait être particulièrement effrayante. Au passage, vous imaginez si j'étais en train de vous parler, puis d'un seul coup, une tornade m'enlève devant vous, ça serait extrêmement surprenant, mais c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Les spécialistes discutent en abondance de cette référence à un chariot et à des chevaux, de feu. On se demande ce que c'est. Là, je vous le disais, c'est une référence qui n'arrive qu'ici, dans l'Ancien Testament, et on ne trouve aucun parallèle dans la littérature extra-biblique. Alors certains avancent l'idée, je pense que c'est assez intelligent, que probablement c'était une arme. Vous vous souvenez qu'on était dans une période de guerre à l'époque entre la Syrie, avec la Syrie, et puis aussi Israël, et que peut-être il y avait une arme qui s'appelait un char de feu. Ça n'explique pas les chevaux de feu. C'est possible, mais franchement c'est indémontrable. Ce qui est certain, c'est que ce char et ses chevaux, c'est une description de ce qu'Élisée a vu, et le feu, ça rappelle un thème qui est récurrent dans le cycle d'Élie, le feu qui tombe du ciel. Le feu qui tombe du ciel pour aller frapper l'Holocauste dans 1 roi 19, le feu qui tombe du ciel pour consumer les 50 hommes qui viennent à la recherche d'Élie dans le chapitre précédent. Ce feu du ciel est la marque de Yahweh, la marque de l'Éternel. Et que quel que soit ce qu'Élisée a vu, c'était clair pour lui que le fait que le prophète lui-même soit embarqué par des chars et un chariot de feu, c'était la marque qu'il était embarqué directement par Yahweh. Et quand il crie « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie », il ne fait que crier à Élie. C'est lui qui l'appelle son père, son maître prophétique, qu'il vient devoir être emporté par Dieu. Ainsi, ce qu'Élie avait annoncé à Élisée s'accomplit pleinement. Il l'a vu, et quelle vision il a vu! Il l'a vu se faire enlever. Ça mérite une petite réflexion ici sur cet enlèvement d'Élie. On a dit qu'Élie était un parallèle de Moïse, mais il y a une différence quand même. La fin de Moïse, c'est la mort. La fin d'Élie, quant à elle, n'est pas vraiment une mort. D'ailleurs, la fin d'Élie, elle s'est révélée tout aussi spectaculaire que sa vie. Je pense que quand vous relisez le cycle d'Élie, à aucun moment vous voyez Élie normal, tranquille, en train de se poser avec une tisane et regarder Netflix. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas du tout le style de vie qu'Élie avait. Il a eu une vie complètement spectaculaire et sa fin elle-même est spectaculaire. De même que le feu du ciel a jadis prouvé que Yahweh est plus puissant que Baal, eh bien c'est un feu céleste de la même nature qui prouve qu'Élie est le prophète par excellence. Mais en réalité, chers amis, cette non-mort, cet enlèvement d'Élie, eh bien ça le distingue de Moïse. Même si Dieu lui-même a enterré ce dernier dans un endroit secret, il est mort. Il n'a pas été enlevé par Dieu. Et à vrai dire, le seul autre personnage de l'Ancien Testament que nous voyons être enlevé de la sorte, c'est Hénoch, celui dont nous avons lu. Je suis sûr que vous vous êtes demandé, mais pourquoi est-ce qu'on a fait une lecture communautaire aujourd'hui avec une généalogie ? Parce que je voulais vous montrer le seul passage qui vous parle d'un autre enlèvement dans la Bible, c'est celui d'Hénoch qui marcha avec Dieu, puis qui ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors on suppose que Dieu l'a pris de la même manière dans un enlèvement. On n'en sait rien. On spécule parce qu'on sait exactement comment Élie a été enlevé. Mais nous n'en savons rien. Aucun détail n'est donné quant à la manière dont Dieu a pris Hénoch. Le seul qui fait l'objet d'un enlèvement au ciel, aussi détaillé, avec chariot de feu, char de feu, avec témoin oculaire, et puis ensuite il y a les 50 prophètes qui sont pas loin, eh bien c'est Élie. Et dans l'ensemble du corpus biblique, il n'y en a qu'un seul autre qui monte au ciel devant 40 témoins. C'est Jésus lui-même. Si le ministère d'Élie est présenté comme celui qui est en parallèle avec celui d'Hénoch, qui est en parallèle avec celui de Moïse, en réalité, il est présenté comme plus grand qu'Hénoch, comme plus grand que Moïse. Il est plus grand qu'eux. Non seulement il a été enlevé au ciel, mais en plus de cela, Dieu a manifesté qu'il était le prophète par excellence. Mais s'il est une personne plus grande qu'Élie, n'est-ce pas Christ lui-même ? Lui a été enlevé au ciel devant multitude de témoins, mais avant de le faire, il a triomphé du péché et de la mort. Et je crois qu'ici, quand on regarde comment ce texte cumule les parallèles avec la Genèse, avec l'Exode, avec d'autres passages du Livre des Rois, et qu'on regarde tous ces textes qui sont compilés ensemble et on voit que Élie vient les récapituler en lui-même, on se rend compte d'une chose qu'on appelle en théologie la révélation progressive. Et comment de Hénoch et de Moïse, on voit que la révélation progresse pour témoigner de qui est cet Élie jusqu'à ce que Christ vienne. Moïse avait annoncé que Yahweh enverrait un prophète comme lui, Deutéronome 18, et nous savons que cette prophétie s'est accomplie en Christ. Élie constitue un point d'étape important dans le dévoilement de cette prophétie. Et le message central, c'est que triompher sur la mort est possible. Regardez Hénoch, regardez Élie. Même Moïse est mort, dit notre texte, mais Élie a été enlevé au ciel. Il y a quelque chose après, enfant d'Israël, il y a quelque chose après, membre de l'Église réformée baptiste de la Trinité. Dieu parle dès l'Ancien Testament pour dire qu'il y a une vie, que cette vie n'est pas la seule, que c'est juste l'antichambre de quelque chose de bien plus grand qui va se passer. Si Élie a été pris, vous devriez souhaiter de tout votre cœur, vous aussi, être avec Dieu comme Élie l'est. Et la solution, et la porte d'entrée dans ce lieu de communion éternelle avec Dieu, eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même qui a triomphé de la mort, vaincu l'adversaire, pris sur lui nos péchés et qui a payé notre dette. C'est le message de l'Évangile et on le voit comme préfiguré dans ce texte de l'Ancien Testament. Alors, Élie est enlevé, il ne reste au sol que son fameux manteau, son seul vêtement, vous vous souvenez ? Élisée le ramasse, Il va vers les rives du Jourdain et il crie tout fort « Où est le Dieu d'Élie ?» Il frappe le fleuve en face, vous avez les 50 prophètes qui le voient. Ils avaient vu le miracle, ils le voient encore maintenant. Et Élisée traverse à nouveau. Le Jourdain s'écarte devant lui et il le traverse à la rencontre des 50 prophètes. Et c'est là le dernier point que l'on entreaperçoit dans notre texte, c'est que les fils des prophètes partent à la recherche du corps d'Élie. Les fils des prophètes partent à la recherche du corps d'Élie. Alors, qu'est-ce que ces prophètes qui étaient quand même des témoins privilégiés ont vu ? Apparemment, ils n'ont pas vu l'enlèvement. Mais ils ont été témoins que Élie a frappé le fleuve et que le fleuve s'est écarté. Ça, ils l'ont vu. Et au retour, ils voient que Élisée a frappé le fleuve et le fleuve, là encore, s'est écarté. Il a fait exactement le même miracle qu'Élie, et ils se disent donc « Élisée est le successeur d'Élie ». C'est immédiatement ce qu'ils se disent quand ils voient le miracle. On va y revenir la semaine prochaine. Pour autant, les 50 fils de prophètes de Jéricho, bien qu'ils aient vu ces deux miracles, bien qu'ils savaient qu'Élie allait être enlevé au-dessus d'eux, eh bien, ça ne les empêche pas de douter. Ils avaient eu des révélations. Hein. Depuis le début, ils étaient avertis que c'était ce jour-là précisément qu'Élie allait être enlevé au-dessus de la tête d'Élisée. Ils le savaient. Ils avaient vu ces deux miracles. Je veux dire, ce n'est pas tous les jours que vous voyez quelqu'un qui vient avec son manteau, qui frappe sur le fleuve et le fleuve s'écarte. Et je ne vous conseille pas d'essayer. Je pense à Nicolas Jem qui prendrait sa chemise pour aller taper sur le Saint-Laurent. Non, le Saint-Laurent ne va pas s'écarter. C'était un miracle prophétique. Ils l'avaient vu. C'est des choses qu'on ne voit que trois fois dans l'histoire de la création, n'est-ce pas ? Et pour autant, ils doutent. Avec ces 50 prophètes se trouvent des vaillants hommes, peut-être des soldats, peut-être des hommes de guerre, ou peut-être tout simplement des personnes qui sont capables de mener une opération de recherche. Eh, ce n'était pas une petite chose de monter cette opération de recherche. Comprenez bien, ils avaient traversé le Jourdain, ils étaient en territoire ennemi. Vous ne vous souvenez peut-être pas, mais lorsque Akasia a pris le pouvoir, vous vous souvenez, premier chapitre du deuxième livre des Rois, une des premières choses qui est dite sur Akasia, il est dit, pendant son règne, Moab se souleva contre lui. Autrement dit, dès l'instant où il traversait le Jourdain, il se retrouvait en territoire ennemi. Donc, aller mener des recherches dans cette zone, il ne fallait pas y aller tout seul, tu vois. Tu ne partais pas avec ton panier de pique-nique et ta glacière et ton barbecue. Tu y allais avec des gens qui étaient capables soit de sécuriser la zone ou de mener des recherches dans cette zone. Et ils se disent, peut-être que l'esprit de Yahweh l'a pris et il l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées, c'est ce qu'ils se disent, après tout. En réalité, ce qu'ils se disent, c'est comment est-ce possible que Yahweh puisse prendre un grand prophète comme Élie sans aller l'enterrer comme Moïse ? Ils n'arrivent pas à y croire. Est-ce que c'est possible qu'il y ait plus grand que Moïse ? Mais oui, il y a plus grand que Moïse. Et il y aura encore plus grand que Moïse. Il y a Christ lui-même qui viendra 1200 ans plus tard. Élisée leur dit, n'y allez pas, dans un premier temps, mais face à leur insistance, je dis insistance, face à leur bourrage de crâne, ils ont probablement insisté lourdement, eh bien, ils les laissent faire. Ce n'est pas tant leur problème qu'il y aurait une transition entre Élie et Élisée, ils n'ont pas de problème avec ça, mais c'est plutôt l'idée que cet enlèvement ait pu se produire. Oui, ils savaient que Enoch avait marché avec Yahweh, et puis plus tard qu'il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ils savaient que c'était possible, mais pourraient-ils être les témoins d'une telle chose dans leur génération ? Pourraient-ils voir quelqu'un qui serait plus grand que Moïse ? Moïse n'est-elle pas la référence pour le peuple d'Israël ? Serait-il possible qu'Élie, par son œuvre, pointe vers quelqu'un qui serait plus grand que Moïse lui-même ? Au bout de 3 jours, les 50 vaillants hommes reviennent bredouilles. Élisée avait raison. Sa foi a été validée par les faits. Et de la même manière que ceux qui ont cherché désespérément le corps de Jésus sont revenus bredouilles, ceux qui ont cherché le corps d'Élie n'ont rien trouvé d'autre que du vent. Chers amis, la foi d'Élisée était fondée sur les promesses de Yahweh. La seule chose qui le distinguait des autres prophètes, c'était une promesse. Il n'avait rien de plus qu'eux. Ils avaient une révélation spéciale. Ils avaient vu des miracles. Et toutes ces choses-là ne les a pas empêchés de tomber dans un doute absolu. Or, vous pouvez voir des grandes choses de la part de Dieu sur cette terre. Si Dieu ne vous confère pas cette foi qui vous mènera au salut, vous n'irez nulle part. La promesse qu'Élisée avait reçue ne lui avait même pas été adressée directement. Elle avait été adressée à Élie, et par l'intermédiaire d'Élie, Élisée savait. Tous savaient qu'Élie allait être enlevé. Un seul a pris cette prophétie au sérieux. Et nous aussi, chers amis, nous attendons, selon la promesse de Christ, une résurrection des morts, un enlèvement final. Je parle ici d'un enlèvement final, l'enlèvement de tout le monde d'un coup, pas un enlèvement en deux temps. Nous attendons cela avec des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous attendons un eschaton, un temps de la fin, un jugement final et un salut éternel, une vie qui nous sera donnée, un corps glorieux dans lequel nous n'expérimenterons plus le péché, plus de douleur, plus de larmes, communion avec Dieu pour l'éternité. Voilà ce qui nous attend. Est-ce que nous croirons ? Est-ce que nous tiendrons ? Est-ce que nous persévérerons jusqu'à la fin ? Chers amis, que l'exemple de ces prophètes qui doutent et que celui d'Élisée qui croit nous pousse à nous mettre à genoux devant Dieu pour le supplier de nous donner la force de tenir bon jusqu'au bout en attendant le grand et le véritable Élie qui s'est manifesté il y a 2000 ans et qui revient bientôt. Prions. Seigneur mon Dieu, merci pour ce texte qui, sans le nommer, pointe vers Christ et qui nous rappelle cette grande œuvre que tu as accomplie à la croix pour le pardon de nos péchés. Merci pour le salut éternel que tu as acquis en donnant ta vie pour nous. Et merci parce que tous les prophètes qui ont prophétisé avant toi, eh bien, ils prophétisaient à ton sujet en ayant vu le salut que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de venir jusqu'à toi en ces temps de la fin. Accorde-nous la grâce de t'attendre avec diligence et avec zèle, mon Dieu, alors que tu as promis de revenir. Donne-nous de croire et de prendre au sérieux ta promesse et de vivre d'une manière cohérente, Seigneur, mon Dieu. Et que ta grâce accompagne chacun d'entre ceux qui ont entendu ces paroles aujourd'hui et qui écouteront encore ce sermon bientôt. Seigneur, nous te prions pour que tu bénisses notre Église, que tu renforces notre foi et que tu nous aides à vivre comme Christ jusqu'à ce que ce jour arrive.